comme sûr est le Christ et le chrétien qui demeure dans le Seigneur, libéré du péché et du diable. L'ancre de l'espérance et l'étoile qui brille est pour lui la parole de Dieu en tout temps. Le malin ne le touche pas, car l'obéissance lui accorde l'amour du Seigneur. Il fonde fermement son édifice sur la parole. Bâti pour la gloire de Dieu. Car Dieu, le Tout-Puissant, est son refuge. Et jamais il a besoin d'avoir peur devant Satan. Le malin ne le touche pas, car l'obéissance lui accorde l'amour du Seigneur. Les murailles et des armées l'entourent. Mais sont autour de lui, donc des murailles et l'armée céleste est autour de lui. Et l'adversaire ne peut pas pénétrer. Le Seigneur lui accorde son armure dans la bataille. Il ne le laisse pas seul. Le malin ne peut le toucher. L'obéissance à la parole et la confiance en Dieu. Il demande pour cela grâce sur grâce. Pour que le soutien lui soit accordé dans la détresse et en tout temps. Pour pouvoir se tenir victorieux dans la bataille. Le malin ne le touche pas, car l'obéissance lui accorde l'amour du Seigneur. Joyeux, nous allons vers notre pays sur ce bon vieux chemin. Tout le doute et les questions sont réglés sur ce bon vieux chemin. Il y en a un qui ne nous laisse jamais seuls dans la bataille et le combat, qui dans la douleur et la joie nous accorde du courage et de la persévérance. Il y en a un dont l'amitié est le plus grand salaire, Jésus, le Fils de Dieu. Notre lumière et notre lampe est la parole de Dieu sur ce vieux chemin. Elle éloigne les puissances des ténèbres sur ce vieux bon chemin. Il ne nous laisse jamais seuls dans la bataille et le combat. Dans la joie et la douleur, il nous accorde le courage et la persévérance. Lui dont l'amitié est la plus grande rémunération. Souvent, Tout est calme et solitaire sur ce vieux bon chemin. Mais à la fin, le salut éternel nous reçoit.
Einer dessen Freundschaft unser höchster Lohn, Jesus der Gottessohn. Wohl ist manche Trübung unser Teil.
Bien sûr que plusieurs tribulations sont notre partage sur ce bon vieux chemin. Mais à la fin, nous salue le salut éternel.
Unser höchster Lohn, Jesus der Gottessohn. Einer ist er, nie uns lässt im Kampf und Streit, der in Leid und Freude schenkt uns Tapferkeit. Einer dessen höchster Lohn, Jesus der Gottessohn. Einer ist er, nie uns lässt in Kampf und Streit, in Leid und Freude schenkt uns dann Verzeihung.
Il est celui qui ne nous laisse jamais seuls dans le combat et la bataille. Lui dont l'amitié est le plus grand salaire, Jésus le Fils de Dieu. Amen. Est-ce que cela n'est pas ainsi tel que nous l'avons chanté? Dans le combat et la bataille, il nous accorde sa présence, il nous a promis son secours et il accomplit ce qu'il promet. Nous, les hommes, pouvons parfois faire des promesses et c'est ainsi que nous ne pouvons pas les accomplir. Mais le Seigneur nous a promis de nous aider, de nous secourir. Nous sommes heureux et reconnaissants de ce que nous pouvons nous attendre à son secours, à son intervention et nous l'avons expérimenté. Nous ne le disons pas seulement, nous l'avons expérimenté, il nous a secourus. Depuis le commencement jusqu'à dans ces jours et jusqu'à cette heure. Croyons-nous cela tous et croyons-nous qu'il nous bénira ce soir. Loué et remercié soit le Seigneur. Ici l'apôtre Jacques prononce les paroles suivantes. Ici dans l'épître de Jacques au chapitre 5, il dit ici, il exhorte en vue du retour du Seigneur les croyants à être patient et à persévérer. Ça, c'est, n'est-ce pas, un titre merveilleux. Et c'est ainsi qu'il a dit ici, au verset 7, « Soyez donc patients. » Jacques 5, verset 7. Et cela n'est pas seulement prononcé aux croyants d'autrefois, mais aussi à nous aujourd'hui dans ces jours. Cette parole a sa valeur et à sa place. « Soyez donc patients, frères. » Oui, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Et nous attendons, n'est-ce pas, de tout notre cœur, son retour, nous voulons être auprès du Seigneur. Mais ensuite, il dit les choses suivantes. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. Oui, c'est vrai, n'est-ce pas? Oui, il attend cela. Nous aussi, nous attendons cela, n'est-ce pas, maintenant? Oui, vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Si cela est écrit ainsi, alors cela doit être ainsi. Sinon, cela ne serait pas écrit ainsi. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Mais ils devaient aussi persévérer et être patients. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Est-ce que cela n'est pas merveilleux? Vous avez entendu parler de la patience de Job? et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Nous pouvons dire amen à cela. Il est plein de compassion et de miséricorde. Et c'est ainsi que nous voulons lui apporter notre reconnaissance. Nous voulons nous lever pour le faire. Père Céleste, nous te remercions de ce que tu es plein de passion, de compassion et de miséricorde aussi avec nous. Pendant ces jours, nous sommes que des hommes faibles et oublieux, mais tu es plein de compassion et de miséricorde. Tu nous bénis, tu nous accordes toujours de nouveau de nouvelles forces et un nouveau courage pour honorer ton Saint-Nom, pour te louer et pour t'exalter et pour t'adorer et pour t'apporter la reconnaissance pour toutes choses. Sois avec nous pendant... Sois avec nous ce soir, bénis particulièrement mon frère qui apportera ta parole et bénis tous ceux qui écoutent, bénis tous ceux qui sont venus et qui ne pouvaient pas venir, Seigneur. Bénis partout ton peuple, dans tous les peuples, les langues et les nations, particulièrement ton peuple Israël. Nous te le remettons particulièrement et te demandons dans ton merveilleux nom. Fais-nous grâce, Seigneur, dans le Saint-Nom de Jésus. Alléluia. 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 Alléluia.
Alléluia.
Loué, honoré, exalté et adoré sois-tu. Louange, honneur et adoration et reconnaissance soient apportées d'un cœur reconnaissant, ô Jésus, pour tout. Épreuve de grâce et de fidélité que tu accordes toujours de nouveau. D'un cœur reconnaissant.
Gnade, Gnade.
Grâce, grâce.
Gnade,
grâce. Au lieu du jugement. L'amour et la compassion et la miséricorde de Jésus. Recevoir l'amour et la compassion. Grâce plus grande que mes fautes. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Nous demandons à Frère Franck. Loué et remercié soit le Seigneur, notre Dieu, pour sa grâce et sa fidélité que nous avons déjà souvent expérimentées par toutes ces années expérimentées. Remercier soit le Seigneur pour le privilège que nous avons d'être ici aujourd'hui. Je voudrais saluer tous très fraternellement, très cordialement dans le nom précieux de notre Seigneur, particulièrement tous ceux qui viennent de l'étranger, de loin et de près, viennent de l'Europe de l'Est, de l'Europe de l'Ouest, de tous les pays voisins, de Népal, oui, on pourrait dire réellement du monde entier, de l'Afrique. Et nous saluons d'ici tous nos frères, toutes nos sœurs. Je me suis écrit quelques noms de villes et de pays qui nous ont appelés, des frères qui nous ont appelés. Et je lis rapidement, de Kinshasa, de Santiago, du Canada, du Danemark, de la Roumanie, de Johannesburg, de Kapstadt, de Durban, de Kigali. Le frère Graf a appelé, le frère Étienne a appelé, le frère John de Bucarest a appelé. Tous sont liés avec nous. Il y a 4 semaines, c'était exactement 4 semaines d'ici où 160 ordinateurs dans le monde entier étaient en liaison et pour écouter en direct et voir et ainsi recevoir la parole merveilleuse de Dieu. Nous sommes simplement très reconnaissants pour les possibilités que nous avons de réellement porter la parole du Seigneur et ainsi distribuer la nourriture spirituelle par sa grâce et ainsi avertir pour la dernière fois cette génération et donner l'appel à sortir d'une manière que beaucoup d'hommes aient la possibilité d'écouter la voix du Seigneur et ceux qui écoutent sa voix aient la possibilité de mettre leur vie en ordre devant lui et aussi d'expérimenter leur préparation pour son retour. J'ai aussi très rapidement à demander qui voudrait prendre part au voyage en Israël. Jusqu'à maintenant, nous avons seulement 13 ou 14 enregistrements. Cela ne suffit pas. Si quelqu'un voudrait prendre part au voyage en Israël, faites-le nous savoir pour que nous puissions, ou alors dire oui, ou bien annuler le voyage. Je me suis écrit une citation du frère Branham qui est très profondément rentrée dans mon cœur, allée dans mon cœur. Je vais encore revenir à cela tout à l'heure. Frère Branham parlait du combat spirituel et de la course qui aussi parfois a lieu dans le sport. Et il disait, celui qui abandonne ne peut pas vaincre et un vainqueur n'abandonne pas. Un vainqueur n'abandonne pas. Un vainqueur a le but devant les cieux et il ne regarde même pas autour de lui. Cela ne l'intéresse même pas où restent ceux qui sont autour de lui ou bien à côté de lui ou bien derrière lui. Il y a une seule chose qui l'intéresse, c'est le but pour qu'il puisse en tant que vainqueur arriver. Donc, celui qui abandonne ne peut pas vaincre et un vainqueur ne pense jamais à abandonner. Donc, nous regardons au Seigneur, celui qui a commencé et qui a suscité la foi et qui la rendra parfaite, qui l'achèvera. Il a pris la responsabilité pour nous. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de tout notre cœur de croire. Encore une fois, nous vous souhaitons à tous la bienvenue très fraternellement. Qui est là aujourd'hui pour la première fois? Puis-je demander, avons-nous des amis qui pour la première fois sont ici? Alors, levez-vous s'il vous plaît. Soyez la bienvenue de Lyon et soyez la bienvenue. Soyez la bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Soyez la bienvenue. Oui, là et là. Oui, que le Seigneur soit remercié. Parfois, cette pensée-là me suit. Plus il y a de personnes qui écoutent par l'Internet et qui peuvent regarder par l'Internet et suivre les réunions, vont manquer donc ici à la réunion. Mais nous croyons que Dieu, justement, malgré tout, rassemble son peuple et parle avec nous. Et bien sûr aussi au monde entier ou bien alors à l'Église épouse dans le monde entier. Ensuite, cette fois-ci, j'ai encore quelques pensées de frère Branham que je me suis noté. En tant que première chose de la prédication, Christ révélé dans sa parole. Et ici, frère Branham dit la chose suivante, citation, « Il y a trois choses que vous n'avez pas le droit de faire. Vous n'avez pas le droit de mal placer la parole de Dieu. Vous n'avez pas le droit de sortir la parole de son contexte. Vous n'avez pas le droit d'interpréter la parole de Dieu. Ça, ce sont des expressions qui touchent le noyau important. Et en cela, et ça je le dis par reconnaissance au Seigneur, c'est ainsi que depuis le commencement, nous nous sommes tenus à cela. Je viens de cette pensée, je viens à cette pensée parce que nous avons traduit une prédication de frère Branham en allemand intitulée L'Absolu. Et nous allons encore venir à parler de ça. Ensuite, frère Branham, dans la prochaine partie, d'abord, il mentionne ici trois choses et ensuite il dit, dans une prédication qui suit, il y a cinq points que vous devez observer. Il faut que cela se passe en son temps. Il faut que cela soit selon sa parole. Et il faut que ce soit la personne de son choix. Et il faut que son prophète, il faut que cela soit d'abord révélé à son prophète. Et la cinquième chose, le prophète doit, par la parole, être confirmé. Ça, ce sont des règles à suivre que nous devons observer parce que elles ont leur place et elles s'ajustent dans le modèle biblique. Et si nous avons une prédication biblique et une église biblique à la fin des temps, avant la grâce de l'être, alors il faut que cela ait sa valeur pour nous, c'est-à-dire tout ce qui avait sa valeur pour l'Église au commencement. Pas d'interprétation, mais la parole révélée, la placer là, à sa place, là où elle s'appartenait d'être, dans le contexte juste, correct, au temps convenable. Et Dieu a toujours, justement, envoyé ses serviteurs et ses messagers qu'il envoie lui-même et qu'il pouvait utiliser. Je répète encore cette citation. Il y a trois choses que vous n'avez pas le droit de faire. Vous n'avez pas le droit de placer, d'ordonner la parole ou bien de mettre un verset à une place qui ne lui appartient pas. Vous n'avez pas le droit de sortir les Écritures de leur contexte. Vous n'avez pas le droit d'interpréter la parole. La parole doit être reçue, révélée par le Saint-Esprit. Et ensuite, dans Actes des Apôtres, au chapitre 20, si par exemple il est écrit que Paul a exposé tout le conseil de Dieu, c'est donc justement parce que Dieu lui avait révélé tout son conseil et qu'il avait été appelé et déterminé par Dieu pour ce ministère par la puissance d'un appel divin et d'un envoi. C'est ainsi que c'est écrit, « Je t'envoie aux nations et je serai avec toi. » Ensuite, nous avons dans ces cinq points que Frère Branham a cités, il faut que cela se passe en son temps. Pas trop tôt et pas trop tard, mais quand le temps fut accompli. Et pour que nous puissions le tester, l'examiner, il faut que cela soit selon les Écritures, pour que nous puissions l'examiner. Et bien sûr, il faut que ce soit la personne de son choix. Dieu lui-même décide qui est celui qu'il envoie. Dieu lui-même décide ce qu'il fait et quand est-ce qu'il le fait. Et heureux les hommes qui ensuite reçoivent la grâce de reconnaître que c'est Dieu qui, le matin et soir, envoie ses serviteurs et ses messagers pour donner et révéler sa parole. Ensuite, aussi cette citation, il faut que ce soit la personne de son choix. Et il faut d'abord que cela soit révélé à son prophète. Le prophète doit, par la parole, être confirmé. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que nous pourrions un peu donner du temps à ces sujets? La parole de Dieu est un absolu. Et je le dis maintenant, pourquoi est-ce que je suis venu à ces pensées et à ces sujets? Frère Branham a été appelé à Houston, Texas, pour prier pour deux jeunes personnes qui avaient été condamnées à mort. Il restait seulement qu'ils attendent à être pris de leurs cellules et apportés dans la chambre où ils seront donc mis à mort. Et c'était le beau-fils de M. Ayers qui, le 20 janvier 1950, avait fait la photo à Houston, Texas, avec la colonne de feu sur la tête de frère Branham. Mrs. Ayers était un critique, était quelqu'un qui critiquait frère Branham et il s'est vraiment moqué de lui et insulté. Et la photo était donc une preuve. Elle est venue entre les mains de Dr. John Lacey, qui était responsable donc d'examiner les documents douteux. Mais ce Mr. Ayers s'était moqué de frère Branham et s'était mis du côté de ceux qui le critiquaient. Lui-même était un catholique, sa femme une juive qui est venue avec son fils dans le couple. Et voilà que la mère appelle et demande, révérend Branham, pourriez-vous venir? Mon fils est dans la cellule avec sa femme, avec sa copine ensemble, et ils attendent pour être mis à mort. Oui. Et voilà que frère Branham a été appelé et plusieurs prédicateurs du pays ont été rassemblés, réunis. Et ensuite, frère Branham a tenu une prédication avec le titre « Un absolu ». Et des saintes écritures. Il a mentionné, il a pris plusieurs hommes de Dieu en tant qu'exemple. Des hommes de Dieu qui avaient reçu la parole du Seigneur en tant que leur absolu. Quand il parlait de Moïse, il a pris l'un après l'autre et il les a mentionnés et pour rassembler et raccourcir l'histoire. La visitation de grâce de frère Branham à cette cellule a eu de la réussite et frère Branham avait l'absolu. Et Dieu a exaucé sa prière et une demande a été faite de l'office qui a la possibilité donc de décider pour la délivrance. Et c'est ainsi que ces deux-là ont été délivrés, donc ils n'ont plus été condamnés à mort. Et donc, dans ce contexte des choses, c'était à frère Branham quand même très important la signification de recevoir de Dieu lui-même une promesse, un absolu, c'est-à-dire la parole de Dieu elle-même, dans laquelle on peut mettre notre foi et l'ancrer. Et je me suis aussi noté cela. Ainsi, les différents hommes de Dieu qui avaient un absolu. Et pourquoi est-ce qu'ils avaient cet absolu? Parce que c'est un appel divin, un mandat, une commission, un ordre, un envoi était venu dans leur vie. Celui à qui Dieu prononce de ta bouche un appel et accorde un envoi et une commission. Alors tout l'enfer peut en être contre. Personne pourra changer les choses. Le dernier mot, c'est Dieu qui l'a. Le dernier mot, c'est Dieu qui l'a. Exode 3, du verset 13 au verset 14, ici, du chapitre 3. Ici, nous avons l'appel de Moïse. Et il voulait savoir le nom du Seigneur, car il aurait été possible qu'on lui demande qui l'a envoyé et comment est-ce qu'il s'appelle. Alors Moïse voulait savoir. Cela, nous lisons cela dans Exode, le chapitre 3, à partir du verset 13. Moïse dit à Dieu. Ici, nous pourrions d'abord nous arrêter un moment. Moïse parlait à Dieu, le Seigneur, de face à face. C'est ainsi que c'est écrit. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je ?» Ça, c'est la dépendance d'un messager de Dieu. Il ne sait pas tout, il sait seulement ce que Dieu lui dit et ce que Dieu lui révèle. Le verset 14 d'Exode chapitre 3, verset 14, Dieu dit à Moïse, « Je suis le je suis. » Ensuite, il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Le je suis, celui qui s'appelle je suis, m'a envoyé vers vous. » Quel absolu! Qu'est-ce que nous avons besoin de plus? La parole de Dieu est notre absolu. Dieu n'a pas seulement parlé à Moïse, il a aussi parlé avec nous. Et avec l'appel, nous lisons dans Exode chapitre 4, verset 12, « Va donc, je serai avec ta bouche. » Moïse devait transmettre à Aaron ce que Dieu lui avait dit. Et ici, il a dit, « Je serai avec ta bouche. » Dieu a utilisé la bouche de ses serviteurs, les prophètes, pour transmettre sa parole et la donner à son peuple. Tel que la parole est sortie de la bouche de Dieu, le Seigneur. Donc, la parole de Dieu n'est pas la parole de Moïse, n'est pas la parole d'Élie, mais elle reste et elle demeure la sainte parole de Dieu. Apportée par une bouche commissionnée et mandatée pour être transmise au peuple de Dieu. Exode 4, au verset 28. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyé, toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait reçues lors de l'envoi, en allemand. Lors de l'envoi. Je lis ici dans Exode 4, verset 28. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait reçues lors de l'envoi. Lors de l'envoi. Qu'il avait reçu lors de l'envoi. Un envoi est une commission, est un mandat, est un ordre qui doit être exécuté. Et la parole du Seigneur dans ce mandat est l'absolu. La parole prononcée par le Seigneur à son serviteur dans ce mandat est un absolu. Ça, tous les prophètes et tous les apôtres avaient reçu cet absolu. Et nous devons dire que Jean-Baptiste l'avait aussi. Frère Branham l'avait aussi. Un absolu divin lors de l'appel reçu, et tous les prophètes savaient ce qu'ils avaient à faire. Et ici, il y a aussi quelque chose d'important que nous devons observer. Les vrais prophètes sont aussi, ont été aussi appelés serviteurs, tel que Dieu l'a révélé à ses serviteurs, les prophètes. D'un côté, en tant que prophète, pour recevoir la parole, et en tant que serviteur, servir Dieu le Seigneur, et cela selon l'appel et l'envoi qu'ils ont reçu. C'est comme ça aussi dans le Nouveau Testament, il y a les deux choses. Apôtres, prophètes, il y a les différents ministères et devoirs pour que la parole du Seigneur dans un ordre et un mandat divin soit donné et transmise. C'est ainsi que nous avons dans le Nouveau Testament la suite, la continuation de ce que le Seigneur a commencé, avait commencé. Il était envoyé 23 fois notre Seigneur, presque l'une après l'autre, dans l'évangile de Jean, a dit « Celui qui m'a envoyé, celui qui m'a envoyé ». Et ensuite arrive le point, après la résurrection, dans Jean 20, au verset 23, « Tel que le Père m'a envoyé, ainsi je vous envoie ». Un mandat divin, un ordre missionnaire, un absolu, qui nous a été transmis. Deutéronome, chapitre 24, je voudrais, dans ce contexte des choses, lire. Deutéronome, chapitre 34. Ici, l'homme de Dieu termine avec ses paroles. Bien alors, c'est ainsi que cela est dit ici. Deutéronome, chapitre 34, à partir du verset 10. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire. Pour tous les signes et les miracles que Dieu fit par lui en tant que son envoyé. En allemand, fit par lui en tant que son envoyé. Bien, mes frères et sœurs, vous savez ce qui doit être dit. Car si frère Branham ne pouvait pas rendre témoignage de son appel et de son envoi, où serait resté l'absolu dans son ministère? L'absolu est réellement contenu dans l'appel divin prononcé par Dieu et l'envoi de Dieu et l'envoi divin. Nous pouvons aller dans le premier chapitre de Josué. Là, Dieu le Seigneur dit, « Mon serviteur Moïse est mort. Je serai avec toi. » De nouveau, un envoi, et dans Ésaïe 6, au verset 8, qui enverrai-je et qui sera notre messager? Ésaïe chapitre 6, toujours le mot envoyé. Jérémie 1, verset 7, ceux à qui je t'enverrai. Ézéchiel 2, verset 3, il me dit, fils de l'homme, je t'envoie à ceux de la maison d'Israël. Toujours, il est fait mention de l'appel et de l'envoi. Un ordre divin a été prononcé qui devait être exécuté parce que cet ordre, ce mandat, cette commission était directement lié à l'histoire du salut. C'est peut-être raison que nous avons toute l'histoire du salut dans l'Ancien Testament annoncée à l'avance et dans le Nouveau Testament son accomplissement. Oui, mais pour revenir à ce que frère Branham ici disait, à la citation suivante, de ne rien sortir de son contexte et de ne rien déplacer, de déplacer aucun verset. Je vous donne un exemple. Frère Branham a 42 fois cité la parole de Zacharie 14, verset 7, où il est dit qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Mais il n'a jamais sorti cette parole de son contexte, mais il a seulement voulu faire une comparaison entre ce qui va se passer avec Israël dans le naturel, et il a voulu rapporter cela à l'Église, et il a dit que la lumière paraîtra au temps du soir. Mais la parole, ce verset-là reste dans ce contexte-là où il est écrit pour toujours et éternellement, et trouvera son accomplissement. Mais seulement pour vous représenter cela devant les yeux, que des prophètes n'ont jamais sorti une parole de son contexte, mais ils l'ont toujours laissé là où cette parole était écrite. Seulement la partie de l'histoire du salut, ils ont voulu éclaircir la partie de l'histoire du salut pour laquelle il s'agit pour nous maintenant. Et ça, c'est justement le caractère de la prophétie biblique qui, d'un côté, éclaircit l'accomplissement naturel avec Israël et, d'un autre côté, éclaircit l'accomplissement surnaturel avec l'Église et dans l'Église. Si, par exemple, dans Zacharie chapitre 14, il est écrit « De Dieu le Seigneur », ici au verset 4, Zacharie 14 au verset 4, « Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. » Et si avec cela nous allons à la dernière partie du verset 5 où il est écrit « Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. » Et c'est seulement après qu'il est écrit au verset c'est seulement après qu'il était dit au verset 6, en ce jour-là. Au verset 4, il est dit, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Et au verset 6, il est dit, en ce jour-là, il n'y aura point de lumière et il y aura du froid et de la glace. Voilà le contexte. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. C'est seulement après qu'il est dit que l'Éternel viendra, qu'il est parlé au verset 6 et 7 de cela. Et ensuite, au prochain verset, il est dit, au verset 8, en ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Et il en sera ainsi, été et hiver. Et c'est ainsi que nous voyons le règne de notre Seigneur au verset 9. L'Éternel sera roi de toute la terre en ce jour-là. L'Éternel sera le seul Dieu éternel et son nom sera le seul nom. Mais c'est pour montrer ici le contexte et pour le répéter. Ce que Dieu, dans le domaine naturel, a promis au peuple d'Israël et accomplira parmi eux, Jérusalem, la montagne des Oliviers, etc. Tout cela, où cela se trouve. C'est ainsi aussi que cela se passe avec l'Église. Il faut que nous puissions comprendre qu'au temps du soir, car l'heure de minuit arrive sûrement, les Saintes Écritures parlent de cela, que à minuit fut un cri, voici, l'époux vient. Et comme touchant le noyau, frère Branham, en tant que prophète, a vu que le jour du salut va vers sa fin et que nous avons atteint le, le temps du soir et que nous allons vers l'heure de minuit. Et ensuite, plus de 40 fois, il a dit que la lumière paraîtra au temps du soir. Et comparez, s'il vous plaît, le passé, les réformateurs, où il y avait seulement de la connaissance, mais il n'y avait pas de révélation. La réformation, où il y avait seulement de la connaissance, mais pas de la révélation. Et il dit ensuite que nous vivons dans le temps où ce ne sont pas des hommes qui expriment leur connaissance, mais dans le temps où parle le ministère prophétique. La parole prophétique a été révélée et ainsi, dans son accomplissement, montrée à l'Église. Personne n'a besoin de rester dans les ténèbres, mais la parole, nous ne la sortons pas de son contexte. Nous laissons chaque écriture dans le contexte bien précis dans lequel il est écrit. Et on ne déplace jamais un verset. Et nous faisons que suivre la révélation que Dieu, pour l'Église, à la fin des temps, a donnée. On pourrait avec cela lire beaucoup de versets bibliques. Vous, bien-aimés frères, ne vivez pas dans les ténèbres pour ne pas que ce jour-là, comme un voleur, vous surprenne, car vous êtes, n'est-ce pas, enfants ou bien fils de la lumière. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, du verset 1 au verset 4. Nous devons reconnaître que Dieu, dans notre temps, a envoyé un prophète qui, justement, a eu le droit d'utiliser la parole prophétique aussi pour l'Église, sans le sortir du contexte naturel dans lequel ce verset est écrit, mais seulement pour montrer que ce qui, dans le domaine naturel, va se passer avec Israël, cela se passe dans l'Église d'une manière surnaturelle, dans le domaine surnaturel. Et bien-aimés frères et sœurs, la lumière que Dieu, par la révélation, a accordée est vraiment seulement à trouver dans l'Église épouse. En ceux qui vont être appelés à sortir et qui se placent sur le sol de la révélation et qui ne font pas qu'écouter la parole, mais qui la reçoivent révélée par Dieu lui-même. Et à cela, nous avons deux versets que nous avons souvent mentionnés en insistant ces derniers temps dans Matthieu chapitre 13. Le verset important dans Matthieu 13 est le verset 18. Matthieu 13, verset 18 et 19. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. La révélation par l'esprit est simplement importante. Car c'est seulement en cela qu'est manifesté. Est-ce que nous avons la relation personnelle avec Dieu ou pas? Et est-ce que pour nous le rideau, le voile est déchiré? Et est-ce que nous avons accès direct dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu? Et que, étant sa présence, lié avec lui, en relation avec lui, nous écoutons sa parole, sa voix. C'est ainsi que l'adversaire a réellement deux devoirs qu'il s'est attribué. D'abord, il ôte de notre cœur ce que Dieu, par sa parole, nous dit, tant que cela ne nous a pas été révélé. Et au moment où la parole de Dieu ne nous est pas révélée, l'adversaire, avec ses interprétations et ses fantaisies, peut venir et ajouter et on ne remarque même pas qu'il a ôté ce que Dieu a semé et semé sa propre semence. Et ensuite le verset 23, dans Matthieu 13, verset 23, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Qui écoute la parole et qui la comprend aussi. Le Seigneur a toujours demandé, avez-vous compris ce que je vous ai dit? Bien-aimés frères et sœurs, revenons aux épîtres de Paul. Les uns ont compris ce qu'il enseignait, les autres ne l'ont pas compris, l'ont incompris. Aux uns, la parole est devenue une révélation, pour les autres, ils n'ont fait que l'interpréter jusqu'au jour d'aujourd'hui. La grâce est encore une fois la grâce de Dieu, c'est tout. Quand Dieu peut nous ouvrir l'intelligence, la compréhension pour les Écritures. L'exemple connu de tous est dans Luc, le chapitre 24. Et ici, nous reconnaissons comme c'est important que nous puissions marcher avec le Seigneur, ressuscité et être avec lui dans sa présence. Luc 24, verset 30, jusqu'au verset 32. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Le prochain verset, au verset 32, et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait en allemand, et nous ouvrait le sens, la signification des Écritures. Si le Seigneur marche avec nous et que nous marchons avec lui, alors il nous ouvrira l'intelligence pour les Écritures. Alors, tous comprendront qu'en cet endroit, ce ne sont pas des hommes que nous glorifions et que ce n'est pas un fondateur de religion que nous suivons, ou bien un homme quelconque qui prétendrait quelque chose de précis, mais nous avons reçu la grâce. Et cela, selon les promesses de cette Écriture, croire ce que Dieu fait dans le présent et aussi tel que, et de la manière avec laquelle il accomplit ses promesses, dans ce temps particulièrement, cette promesse principale, que dans chaque prédication, nous devons mentionner. Je vous le dis tel que c'est. Une prédication sans que ce que Dieu a promis dans sa parole soit inclus. On peut éviter d'apporter une telle prédication car elle ne nous conduit pas à Dieu et au conseil du salut de Dieu. Ça, on peut le dire parce que c'est ainsi que c'est. Tous ceux qui écoutaient Jean-Baptiste ont eu la possibilité de s'introduire et de s'ordonner dans le conseil du salut de Dieu. Se sont laissés baptiser et ont donné raison à Dieu. Et ensuite, il est écrit, l'ami de l'époux écoute la voix de louange de l'épouse et cette joie qui est la mienne est maintenant devenue parfaite. Ce n'est pas les scribes et pharisiens, mais ceux qui appartiennent à l'épouse. Ce sont eux-là qui ont prêté l'oreille au message que le précurseur a apporté et dans l'obéissance, ils se sont laissés baptiser, ils ont accepté le baptême. C'est la même chose encore maintenant. Et je veux encore vous montrer quelque chose, et cela des Saintes Écritures, pour vous montrer quel droit divin les hommes de Dieu avaient dans le Nouveau Testament d'utiliser d'une manière différente un verset de l'Ancien Testament, mais malgré tout, le laisser dans le contexte et là où cela a sa place d'être écrit. Et c'est une parole qui est connue de tous. Par exemple, la parole du prophète Malachi. Nous avons ici les deux choses. Et ces deux choses-là sont très, très importantes. Bien mes frères et sœurs, ne l'oublions pas. Dieu a des serviteurs et des prophètes. Et c'est ainsi que c'est écrit dans Amos 3, verset 7. Dieu ne fait rien sans d'abord avoir révélé ses mystères ou bien son secret à ses serviteurs, les prophètes. Il y a deux fois cette expression. Voici, dans cette traduction, dans le texte original, il est dit, regardez, je vous envoie, donc Malachi 3, le verset 1. Voici, j'enverrai mon messager. J'enverrai. C'est Dieu qui envoie. C'est Dieu qui commissionne, qui ordonne. Et Jean-Baptiste était l'accomplissement de cette promesse. Un envoi qui appartenait au conseil du salut de Dieu au commencement de la nouvelle alliance. De la même manière, il est écrit au verset 23, la plupart ont quatre chapitres dans Malachie, donc comme en français ici, Malachie 4, au verset 19 du chapitre 3 dans d'autres Bibles, donc ici c'est le chapitre 4, au verset 1, car voici le jour vient, chapitre 4 de Malachie, verset 1, Adam comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Et ensuite, la promesse au verset. Et ça, c'est Dieu l'Éternel qui parle. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Au verset 5 donc de Malachie, chapitre 4. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce grand jour est redoutable. Et dans le Nouveau Testament, Pierre a eu le droit divin de faire de ce jour terrible et redoutable le jour glorieux. Le jour glorieux. Ici, nous avons déjà plusieurs fois mentionné cela. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, ici, l'homme de Dieu se réfère à l'Ancien Testament à ce qui avait été promis et nous insistons directement ici en disant que ce qui est écrit reste vrai dans le contexte dans lequel il est écrit, mais seulement quand cela concerne l'Église du Nouveau Testament. Alors, cette partie qui concerne l'Église est soulignée et relevée. Je le lis ici dans Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 21. Au verset 20. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Donc quoi maintenant? Que dites-vous? Là, dans l'Ancien Testament, jour terrible et redoutable, et ici subitement, ce grand jour glorieux. Le même verset biblique, la même parole du Seigneur, trouve son emploi. Alors on doit, avec ce verset biblique, aller aux autres versets bibliques pour voir comment est-ce que l'Esprit de Dieu, et que cela soit dit, dans l'Ancien Testament, le mystère de l'Église n'avait pas encore été révélé. Les choses étaient encore seulement, étaient que annoncées, prédites. mais seulement dans le Nouveau Testament. Paul le dit, comme dans Éphésiens, tel que cela est révélé maintenant à ses saints apôtres et prophètes par le Saint-Esprit. Nous l'avons ici dans 1 Corinthiens au premier chapitre, et toujours apporté en relation avec le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est justement la confirmation que les hommes de Dieu, sous la conduite du Saint-Esprit, ont utilisé la parole qui avait été donnée dans l'Ancien Testament et ont montré comment est-ce que elle va s'accomplir et comment est-ce qu'elle s'est accomplie. Et c'est ainsi qu'ils montrent pas seulement la partie qui, vu terrestrement, s'accomplira, comme il est dit que le soleil perdra son éclat et la lune changera en sang, mais aussi ils ont mentionné et relevé la partie qui, à la fin du temps de la grâce, sera manifestée, c'est-à-dire lors de la venue du jour du Seigneur, c'est-à-dire ce jour, ce matin glorieux, en tant que retour de notre bien-aimé Seigneur, avant justement, avant que le soleil perde son éclat et que la lune se change en sang. 1 Corinthiens, chapitre 1. 1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 17. Pardon, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 7. De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, l'importance n'est pas mise sur le jour du Seigneur, mais sur le jour de Jésus-Christ. Le jour glorieux de son retour. Le jour de son retour glorieux. Comme il est dit ici, afin que nous soyons irréprochable au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Au verset 9, maintenant, Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Ici, nous avons une vue d'ensemble dans la conduite du Saint-Esprit pour voir comment est-ce que les hommes de Dieu, dans le Nouveau Testament, ont ordonné les choses, ont mis chaque chose à leur place, et cela pour nous, pour que dans la parole de Dieu, nous soyons affermis. Philippiens, premier chapitre, ici il est même écrit plusieurs fois, dans Philippiens, il est montré la manière avec laquelle Paul a parlé du jour du Seigneur en tant que jour de Jésus-Christ a mis le jour du Seigneur à sa place, c'est-à-dire dans le jour de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 1, d'abord au verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Pour le jour de Jésus-Christ. À partir du verset 9, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange. Donc, en allemand, qui croit par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Donc, nous voyons que Paul avait devant les yeux l'achèvement de l'Église épouse, de l'Église, et que il voulait expérimenter la préparation pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ. Il voulait expérimenter la préparation des croyants. Et ici, au chapitre 2, verset 16, et Philippiens, chapitre 2, verset 16, restez attachés à la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et maintenant le verset où les apôtres ont laissé le jour du Seigneur en tant que jour du Seigneur. Par exemple, dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, ici nous avons de nouveau l'insistance ici sur le jour du Seigneur, pas sur le jour de Jésus-Christ. Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, et ici vous remarquez qu'au chapitre 4, il est parlé de l'enlèvement, particulièrement à partir du verset 13. Et cette parole aussi, on doit la laisser dans le contexte dans lequel elle appartient d'être. Car ceux qui se sont endormis en Christ vont d'abord ressusciter. Et ensuite, nous qui sommes restés vivants jusqu'au jour du Seigneur, jusqu'au retour du Seigneur, nous serons transformés et avec eux, sur des nuées, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Le verset 16 et 17. Et aussi là, on doit laisser tout tel que c'est écrit. Si cela se passe, alors deux seront à la meule, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Deux au champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Et deux dans le lit, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Alors si quelqu'un dit que le Seigneur est déjà revenu, ou bien alors, comme le frère en Virginie me disait que l'enlèvement a déjà commencé depuis longtemps, alors on doit réellement dire, laissez chaque parole de Dieu exactement dans le contexte dans lequel il a sa place. Ne déplacez rien d'ici à là, mais laissez tout texte écrit et là où c'est écrit. Et si, par exemple, il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Donc, le Seigneur lui-même. Le message est précurseur de son retour. Et ça, c'est aussi le point que nous devons toujours de nouveau relever, et pas parce que nous le voulons, mais parce que nous devons le faire. C'est pour cette raison que frère Branham, il lui a été dit, tel que Jean-Baptiste a été précurseur de la première venue du Christ, a été envoyé en tant que précurseur. S'il vous plaît, ouvrez votre concordance et regardez combien de fois le mot envoyé est écrit. Toujours, quand un mandat, une commission, un ordre est prononcé en relation directe avec le conseil du salut de notre Dieu, c'était toujours alors un appel, un mandat, une commission, un mandat, un ordre. Et c'est ainsi que cela est jusqu'aujourd'hui encore. Nous croyons et cela par conviction et pas pour tout. D'abord, parce que c'est une, pas comme ça pour rien, mais parce que c'est une promesse que Dieu devait d'abord accomplir. Là, il n'y a pas un chemin qui pourrait s'en détourner. Si quelqu'un peut me dire qu'une promesse ne trouve pas son accomplissement, alors cet homme n'est pas mon partenaire d'entretien. Toutes les promesses de Dieu sont oui et sont amen. Et si l'heure de leur accomplissement arrive, et quand l'heure de leur accomplissement arrive, alors le peuple de Dieu reconnaît le moment de son accomplissement, c'est-à-dire tous ceux qui prêtent l'oreille à la voix du Seigneur. Maintenant, revenir à 1 Thessaloniciens 5, au verset 1. Romains, chapitre 5, verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, donc maintenant le passage dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur, vous voyez, ici nous avons de nouveau la même formulation. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et ensuite la relation ici n'est plus avec l'Église, mais à ce qui va se passer quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Et ensuite, il nous est dit, au verset 4, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. » C'est ainsi que cela est écrit ici. Et ensuite, nous allons à Pierre, qui de nouveau, le jour du Seigneur, a utilisé le mot, la formulation « jour du Seigneur » en tant que feu qui viendra. Et malgré tout, par les apôtres et les prophètes parlent ici, qui nous ont prêché la parole. Le même Pierre ici, dans 2 Pierre, chapitre 3, ici à partir de verset 2, « Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Sauveur, du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. » Et ensuite, sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent où est la promesse de son avènement. Ensuite, le verset 8 et 9, « Mais il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur, verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Et directement après, il revient ici et mentionne cette expression de l'Ancien Testament au verset 10. « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Donc nous voyons que cette expression, vraiment, de manière très claire, a été éclaircie des deux côtés. Dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, là où il est parlé de l'homme, du péché et de l'iniquité, nous avons de la même manière une description brève de ce que renfermera le jour du Seigneur. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir de verset 1, « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères. » Ici, il s'agit de l'enlèvement. Le retour de notre Seigneur, l'avènement de notre Seigneur, la réunion avec Christ quand dans les airs nous le rencontrerons et entrerons dans le repas des noces de l'agneau. Lié à cela, je vous prie, frère, bien-aimé frère, aujourd'hui cette prière est adressée à nous, de ne pas vous laisser facilement ébranler de votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler par rien du tout, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Le jour du Seigneur est seulement là quand le soleil perdra son éclat et que la lune se changera en sang. Mais il y a toujours eu déjà parmi les croyants des frères qui voulaient plus savoir les choses, mais qui n'avaient pas été établis par Dieu et qui n'avaient pas d'envoi, qui n'avaient pas d'appel et qui écrivaient et qui ont toujours apporté de la confusion parmi le peuple de Dieu. Nous avons par exemple tout un nombre de citations du frère Branham qu'il l'a fait sur Matthieu 25. Et cela déjà en 1963, 64, 65. Comment est-ce qu'il parle de ce que nous vivons dans laps de temps dans lequel un réveil doit avoir lieu et que les lampes doivent être purifiées et remplies d'huile. On n'a pas besoin d'un homme qui apparaîtrait et dirait à partir de maintenant, depuis 2005, le réveil de ceux qui dorment doit avoir lieu. Non, depuis 63, depuis 64, déjà depuis 65, Frère Branham a parlé de ça. Et tous ceux qui prennent part à cet accomplissement n'interprètent plus, mais croient la parole et vivent dans la parole de Dieu et sont sanctifiés par la parole de la vérité. Tous les autres viennent avec leur interprétation et apporte de la confusion et du désordre. Dieu a besoin de personnes qui voudraient encore interpréter sa parole, c'est ainsi et lui donner une signification. C'est ainsi que nous l'avons aussi entendu dans ces trois citations et ensuite dans les cinq autres. De ne jamais interpréter la parole de Dieu, mais de prendre part à l'accomplissement des promesses de Dieu. Nous croyons aussi dans ce point que Dieu veille sur sa parole. Et nous allons, Dieu voulant, demain encore montrer que l'appel à sortir est la chose la plus importante pour pouvoir appartenir aux vierges sages. Et que, c'est-à-dire que les folles, vont aussi à la rencontre de l'époux. Mais elles ne se sont pas laissées appeler à sortir et ne se sont pas laissées corriger. Elles ne se sont pas laissées apporter en accord avec Dieu et la parole de Dieu. Elles sont restées spirituellement dans l'endroit dans lequel elles étaient. Et c'est pour ça que je les décris. Allez aux vendeurs. Un homme de Dieu ne vend pas d'huile. Un homme de Dieu est un envoyé du Seigneur, mandaté par le Dieu Tout-Puissant lui-même. Et où sont les vendeurs d'huile qui ont le monopole sur tout, tous les charismatiques, et nous ne portons aucun jugement. Mais celui qui lui-même n'est pas sorti spirituellement d'une interprétation ne pourra jamais appeler d'autres à sortir. Celui qui lui-même ne se laisse pas corriger par la parole de Dieu ne pourra jamais corriger le peuple de Dieu. Et bien, mes frères et sœurs, on pourrait être terrifié quand on lit les détails dans les Écritures. Mais revenons rapidement à ce que nous avons dit déjà au commencement, ce que Paul et aussi ensuite frère Branham, en comparaison, on dit, en relation avec la course pour atteindre le but. Seulement, encore rapidement, cette parole merveilleuse de l'épître aux Corinthiens, dans Corinthiens 1 Corinthiens, le chapitre 9, 1 Corinthiens, le chapitre 9, à partir du verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Donc, dans ce cas, ne vous inquiétez pas d'un frère ou bien d'une sœur, mais inquiétez-vous de vous-même. Inquiète-toi de toi-même et regarde toi-même au but. Regarde toi-même au but. Pas au frère, pas à la sœur, pas aux circonstances, mais toi-même regarde au but. Et ensuite, le verset 25, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence en toute chose, en allemand, en toute chose. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Et maintenant arrive la chose très importante, très importante. Moi donc, je cours, non pas sans but, comme à l'avenir. Je frappe, non pas comme battant l'air, non, nous ne battons pas l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêcher aux autres. Donc, nous regardons au Seigneur, nous regardons au but tel que Paul particulièrement l'a adressé aussi aux Philippiens et nous l'a représenté devant les yeux. Dans Philippiens, le chapitre 3, Philippiens chapitre 3, à partir du verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, permettez que je le dise ainsi ici, mais ici à l'Europe, en Europe de l'Est, il y a encore toutes sortes de choses qui sont différentes que chez nous ici. Et alors que il y a 14 jours d'ici, nous étions en Roumanie, et c'est toujours encore ainsi, c'est l'habitude si on peut le désigner ainsi, dans les mouvements pentecôtistes, dans les assemblées pentecôtistes, que ceux qui viennent à la réunion, au culte, se mettent à genoux et remettent la réunion, chacun se met à genoux ici et là et prie et remet la réunion au Seigneur. Ça, j'ai trouvé ça bien. Parmi eux, ici, chacun peut faire comme il se sent conduit. Mais si ensuite, dans cette grande église pentecôtiste à Arat, après la prédication, le prédicateur a aussi le courage de dire, maintenant, nous voulons tous nous mettre à genoux et remercier Dieu pour sa parole que nous avons entendue. Alors, cela m'a touché très profondément. Alors, cela se passe comme ça à un moment spontané où, je le dis, vu globalement, des personnes qui, de cette manière, résumées, écoutent le message pour la première fois et ensuite remercient le Seigneur pour sa parole à genoux de ce qu'ils ont eu le privilège d'écouter la parole de Dieu. Mais on ressentait, on voyait que la prière était à haute voix, elle était sincère et profonde. Et cela a été remarqué qu'elle venait du cœur et que ces personnes avaient réellement accepté et reçu la parole de Dieu. Et que le prédicateur disait ensuite à notre frère Daniel, Dis encore quelque chose pour finir et revenez et apportez-nous la parole de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, encore le Seigneur appelle à sortir. Et comme et nous ne sommes pas ici aujourd'hui par hasard, nous sommes ici aujourd'hui parce que Dieu encore appelle à sortir. Et les réunions que nous avons ici sont ainsi ordonnées par Dieu. Ce n'est pas, ça n'a pas été ton plan ou bien mon plan. Et si dans toute l'humilité je peux dire que pas seulement comme les actes, pas seulement comme l'apôtre Paul, il avait reçu sur le chemin de Damas cette parole du Seigneur, je t'enverrai aux nations, pas seulement comme Jean-Baptiste, qui était un homme envoyé de Dieu, auquel tous écoutaient, à qui le Seigneur ouvrait le cœur. Frère Branham était aussi un homme envoyé de Dieu. Et si aujourd'hui, ici, en cet endroit, devant le Dieu Tout-Puissant, nous nous tenons et regardons en arrière, pouvons regarder en arrière à ce jour où ces paroles-là, encore jusqu'à aujourd'hui, retentissent dans mon oreille et dans mon cœur. Je t'enverrai de ville en ville pour prêcher ma parole. Alors, ce n'est pas comme ça aller dans le sable. Le messager n'a pas seulement été repris, mais le message a été porté. Et tous ceux qui savent cela peuvent se rappeler qu'après le retour à la maison de frère Branham, la parole révélée, le message divin pour ce temps est allé dans le monde entier, a été porté dans le monde entier. Et aujourd'hui, nous pouvons, ensemble avec le monde entier, considérer la parole de Dieu. Et j'espère qu'aujourd'hui, tous, de l'extrême est de l'Europe, de notre continent et dans beaucoup de continents et de pays du monde, avec nous et avec Dieu, tous sont liés. Et que tous, nous avons ce grand privilège d'estimer ce que Dieu nous a accordé et de prendre part à ce qu'il a promis et à ce qui appartient à l'appel divin, à la commission divine, au mandat, à l'ordre, et encore revenir à cette expression, un absolu. Aucune résistance, c'est final. Rien repris. Un absolu est final. Il n'est plus nécessaire de revenir là-dessus. C'est un absolu de Dieu. Et un absolu de Dieu est infini pour toute éternité. Prononcé une seule fois et Dieu ne peut plus reprendre ses mots. C'est ainsi que tous les hommes de Dieu avaient un absolu reçu de Dieu dans l'appel. Lors de l'appel. Et c'est peut-être ce que Paul même pouvait dire et écrire. Christ n'est pas oui et non. Il n'a pas été aussi oui et non dans la bouche de Silas et Timothée. Mais oui et amen. La parole de Dieu est certaine. La parole de Dieu est mon absolu et est ton absolu, est devenu notre absolu. Et nous avons reconnu à ces deux exemples que des hommes de Dieu dans le Nouveau Testament ont laissé dans le contexte ce qui était écrit, dans le contexte dans lequel il était écrit, c'était écrit, et malgré tout, par la révélation de l'Esprit, ils ont pu ordonner ce qui concernait l'Église du Nouveau Testament, ce qui allait s'accomplir avec l'Église du Nouveau Testament. Comme il est dit, par exemple, au temps du soir, la lumière paraîtra. Le Seigneur reviendra et reprendra les siens auprès de lui dans la gloire. Et cela se passe avant que le soleil s'obscurcisse et que la lune perd son éclat. Je change en sang. Bien, mes frères et sœurs, ce sont des heures les plus importantes dans toute l'histoire de l'humanité. L'appel à sortir, la préparation de l'Église épouse de Jésus-Christ, notre Seigneur. Car seulement qui maintenant prête l'oreille à ce que l'Esprit dit à l'Église. C'est seulement celui-là là, qui écoutera aussi, qui entendra aussi les trompettes, qui entendra aussi la voix de l'archange, qui entendra tout ce que Dieu a promis et dans le contexte dans lequel il a promis, il a dit. C'est ainsi que cela s'accomplira. Qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui à faire? Que de remercier Dieu et de lui apporter la louange et l'adoration, car il a accompli sa parole et il a envoyé le prophète. Vous n'avez pas besoin de poser la question à qui que ce soit. Et ici est le point. Tous passent sans prendre part à ce que Dieu fait. Seulement ceux qui appartiennent à l'Église épouse de Jésus-Christ ont une oreille ouverte pour écouter la voix de l'époux, la recevoir, l'accepter et la croire. Dans ce contexte, on pourrait encore dire beaucoup de choses. Encore une fois, Philippe 3, au verset 12, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Que cela, aujourd'hui, parmi nous, se passe, que profondément nous soyons saisis et savoir estimer le privilège que nous avons, que Dieu avec nous d'une manière si compréhensible parle et que par sa parole il nous enseigne, oui, par sa grâce il nous accorde la révélation. Ainsi, tel que frère Branham a employé son temps pour un petit couple qui était devenu coupable de la mort de quelqu'un et que dans la prière, il a reçu l'absolu. L'absolu, il a reçu l'absolu. Et il l'a dit aussi à ces personnes. Et c'est voilà que Dieu a exaucé sa prière. Bien, mes frères et sœurs, nous avons des personnes avec beaucoup, avec plusieurs, avec différents problèmes. Parmi nous, il n'y a pas une famille où il n'y aurait pas de difficultés, de problèmes. Mais que la parole de Dieu nous soit accordée en tant que l'absolu. Et tel que Frère Branham l'a dit aussi ici, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera accordé. Cela vous sera accordé. Frère Branham a mentionné plusieurs versets bibliques et il a toujours de nouveau dit, ça c'est mon absolu. C'est en cela que c'est là-dedans que ma foi est ancrée. C'est en cela que ma foi est ancrée. Et à ce moment-là où la foi est ancrée dans les promesses de Dieu, c'est ainsi qu'elle devient une puissance de Dieu. Et alors, Dieu le Seigneur révèle sa puissance et sa gloire parmi ceux qui croient, qui le croient. Bien-aimés frères et sœurs, nous attendons l'action surnaturelle de Dieu. Nous voulons de tout notre cœur suivre la parole et l'action du Saint-Esprit. Laissez toute la place à l'action du Saint-Esprit. Laissez toute la place. Suivre dans la prédication, suivre dans la prière, être simplement une partie de tout ce que Dieu fait dans ce temps. Nous respectons l'appel et l'envoi et le mandat de chaque homme de Dieu jusqu'à notre bien-aimé frère Branham et dans tous les différents âges. Encore une remarque. Tous les hommes de Dieu qui étaient dans le passé sont élevés, sont honorés, qui n'avaient même pas une confirmation, mais dans le présent. Les hommes de Dieu dans le présent sont rejetés, quoique ils ont une confirmation et une légitimation divine, ou bien avaient une légitimation divine. Et ensuite s'accomplit ce que frère Branham a aussi dit. Les hommes remercient Dieu toujours pour ce qu'il a fait dans le passé et regardent à ce qu'il va faire dans le futur et ne reconnaissent pas et ne prennent pas part à ce qu'il fait dans le présent. Alors qui elle a aidé? Rien, personne. Dieu n'est pas le « j'étais » ou bien le « je serai », mais le « je suis ». C'est ainsi que Moïse, il a été dit à Moïse, et c'est ainsi que cela s'accomplit et est vrai encore maintenant, aujourd'hui. Pas ce que Dieu seulement a fait du temps de frère Branham, ou bien dans les actes des apôtres, ou bien dans le temps des apôtres, mais ce que Dieu fait maintenant. Nous voulons prendre part seulement à ça, et de tout notre cœur le croire, et l'accepter, le recevoir. À lui, le Dieu Tout-Puissant, qui nous a confié sa parole, et qui nous a ouvert l'intelligence pour les Écritures, et qui part avec nous, comme un ami, avec son ami, à lui, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui ainsi parle avec nous de manière personnelle, et nous vivifie sa parole et la rend vivante. À lui soit l'honneur, maintenant et dans toute éternité. Alléluia. Amen. Amen. Nous voulons nous lever et ensemble remercier Dieu. Peut-être que nous chantons ce cœur tel que je crois, crois seulement, crois seulement.
Glaube nur, alles ist möglich, oh glaube nur. Jesus ist hier, Jesus ist hier.
Nous courbons, nous gardons les têtes courbées et ouvrons nos cœurs devant Dieu le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs et bien-aimés amis, comme dans les jours de la Bible, encore aujourd'hui, partout où le Seigneur accomplit sa promesse et est parmi nous, se passe encore aujourd'hui ce qui s'est passé autrefois alors qu'il marchait sur terre. Il marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Et là où l'homme écoute ce que l'Esprit dit à l'Église, où des personnes écoutent ce que l'Esprit dit à l'Église, alors là, le Seigneur a la possibilité de ne pas seulement ouvrir le cœur, mais nous lui disons, nous lui ouvrons tout ce que nous sommes et nous lui disons, viens parmi nous, marche parmi nous, sauve ce qui est perdu, guéris ce qui est malade, délivre ce qui est lié. Nous voulons le faire. Combien sont ici qui ont une requête particulière et qui croient que Dieu exauce les prières maintenant, exaucera. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Partout, les mains se lèvent. Prions. Seigneur notre Dieu, tu es un Dieu personnel. Tu nous es apparu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu es devenu homme à cause de l'homme. Et tu as vaincu toutes les difficultés, et tu as vu de tes propres yeux les possessions, la maladie et la détresse de l'homme. Tu as tout vu de tes propres yeux. Et ensuite, Seigneur, tu es allé à la croix pour l'humanité. Tu as versé ton sang. Tu as donné ta vie pour nous racheter et pour nous guérir et nous sauver entièrement et ôter à Satan la puissance et vaincre l'enfer et nous rétablir dans la liberté des enfants de Dieu. Ô bien-aimé Seigneur, ensemble, nous louons la puissance de ton sang et de ta parole et de ton esprit. Et que cela se passe au nom du Seigneur, que tous ceux qui maintenant croient l'absolu de Dieu reçoivent dans leur cœur l'absolu de Dieu et la parole de Dieu en tant qu'absolu l'emploie. Ô bien-aimé Seigneur, nous te remercions de tout notre cœur pour ta présence, pour tes bénédictions, pour ta parole. Que tu puisses avoir ton chemin avec nous tous. Nous ne te laissons pas, si ce n'est que tu nous bénisses. Ô grand Dieu, ô grand Dieu, ô grand Dieu, aie ton chemin et révèle ta puissance, manifeste ta puissance, sauve, guéris, délivre et bénis. Accorde la révélation par ton esprit et ouvre notre intelligence, notre compréhension pour les Écritures. Ô grand Dieu, ô grand Dieu, ô grand Dieu, ô grand Dieu, ô grand Dieu. Alléluia. Nous te remercions ensemble pour la participation que nous avons la grâce d'avoir maintenant à l'accomplissement des promesses, à ce que tu fais, ô Dieu, toi-même, toi-même, dans le présent sur terre, en accord avec ta parole. Tu as confirmé ta parole et aussi ton prophète d'une manière surnaturelle, tu l'as confirmé, comme dans les jours de Moïse, tu es descendu dans la colonne de feu. Ô grand Dieu, je te remercie. C'est ainsi que tu nous as visités. Dieu le Seigneur, par sa parole, a parlé avec nous. Et sa parole, encore aujourd'hui, ne reviendra pas sans effet, mais elle produira l'effet pour lequel elle a été envoyée par Dieu, ici et dans tous les endroits sur terre. Ô bien-aimé Seigneur, bénis ton Église dans le monde entier. Que tous soient bénis qui ont écouté et qui écouteront encore. Et accorde-nous la grâce d'avoir toujours dans la course, d'avoir toujours le but devant les yeux et de courir la course et d'oublier ce qui est derrière nous et de regarder à ce qui est devant nous, d'atteindre le but, d'avoir le but devant les yeux. Alléluia, alléluia. Louez Dieu le Seigneur, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire, gloire, gloire. Alléluia, alléluia. Ô Dieu vivant, Dieu vivant éternel. Alléluia. Tu n'as pas seulement parlé avec Abraham et Moïse. Tu as parlé avec nous. Remplis-nous du Saint-Esprit.
Ô
Esprit du Seigneur, viens, viens, descends parmi nous, bénis, infuse-toi. Remplis ton peuple comme au commencement, encore à la fin, bénis.
Alléluia.
Effuse-toi. Alléluia.
Alléluia.
Alléluia. Alléluia.
Oh God. Alléluia.
Chantons « Ô, c'est Jésus ».
Ô, c'est
Jésus.
Ô, c'est Jésus. Ô, c'est Jésus.
C'est Jésus uniquement. J'ai touché le bord de son vêtement. Et son sang m'a purifié.